you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sophie Rosemont, Pascaline Potvin, Hugo Cassavetti, et sur nos platines, Have We Met the Destroyer, The Neon Skyline d'Andy Schoff, L'Appel de la Forêt de Julien Gasque, et puis le coup de cœur d'Hugo Cassavetti, c'est Bebop Deluxe, c'est Modern Music, et ce sera tout à l'heure au cours de cette émission. Une information tient supplémentaire après le journal pour dire que l'affiche de Solid Days a été complétée. Les Black Eyed Peas, Anderson, Pack et Metronomy complètent cette affiche. Et j'évoque Solid Days pour évoquer la mémoire de David Kessler, dont on a appris la mort hier à l'âge de 60 ans. Il a été notamment le patron très bienveillant de France Culture. Ça a été un grand bonheur de travailler avec lui. Et je voulais juste saluer sa mémoire et envoyer des pensées très chaleureuses à sa famille. Et à ses proches, c'est jamais très facile de dire ce genre de choses. Donc on va ouvrir cette dispute avec Have We Met the Destroyer. En septembre 2015, nous parlions dans cette émission du 11e album de Dan Bejar, connu sous le nom donc de Destroyer. 25 ans d'existence, le groupe du Canadien a très souvent surpris ses fans, puisque le but de Bejar, comme il le dit lui-même, c'est de repartir de zéro à chaque album. Alors qu'en est-il avec ce 12e, avant d'écouter un extrait, un premier tour de table, rapide, comme toujours, pour recueillir votre premier sentiment sur ce disque Hugo Cassavetti.
Bon, je l'ai dit au Béjar, au sommet de son art. Ouais.
Je vous ai travaillé à la rime, c'est beau, Pascaline Potvin.
Des méandres dans lesquels on prend plaisir à se noyer.
Et Sophie Rosemont.
Glacial et brûlant à la fois.
Oh là là, ça part un peu étrangement. On va écouter un extrait de cet album, on va écouter Kind of Dark.
Wanted it in there. You wanted it in there. Every night you took the air, gasping for anything. There sits the Boston Strangler. Calling all cars. The palace has a moss problem. It glows in the dawn. Light goes wherever you go. Sewn into your hem. It's me versus them. First us versus not a goddamn thing. Then the blind bitch versus the clucking hen in a ring around the razor's edge. Kinda dark in here, she says. Kind of dark in here, she says. Kind of dark in here, she says. Kind of dark in here, she says.
Thank you. Kinda Dark, extrait de l'album Have We Met the Destroyer. Hugo Cassavetti, pour ouvrir vraiment la dispute, pourquoi cet album?
Pourquoi ce choix?
C'est une de vos recommandations, c'est pour ça que je commence avec vous.
C'est vrai, c'est vrai. Alors Destroyer, on l'a dit au début, ça fait quoi, un peu plus
25 ans,
qu'en fait derrière c'est donc le Canadien de
Vancouver, 95-2020.
David Béjart, qui longtemps sortait beaucoup de disques, qui partait un peu dans tous les sens, assez passionnant, mais qui était un peu, on va dire, expérimental au pop, avec une influence très très marquée de Bowie, qui l'imitait beaucoup dans ses maniérismes. Et donc, c'était pour plaire, mais on sentait qu'il cherchait tout le temps une identité précise et tout. Et je trouve que cette identité, il l'a trouvée avec un album que j'avais trouvé remarquable en 2011 qui s'appelait Caput, où tout à coup, il a un peu laissé tomber toutes ces fioritures partant dans tous les sens pour, étrangement, ça pourrait paraître extrêmement désuet, voire rétrograde, c'était à l'époque où il y avait à la fois un groupe qui s'appelait Midlake et tout, qui était de redécouvrir...
visiblement, s'en souvient avec joie.
Qui était il y a une petite période, voilà, cette fin des années 2010, où deux, trois artistes d'horizons très différents ont ressuscité ce qu'on a appelé le soft rock dans les années 70, mais en lui apportant une touche supplémentaire, une profondeur que n'avait pas le soft rock des années 70.
Il y a un débat qui s'ouvre, Sophie Rosemont, parce qu'il y a une bonne
Mais ce qui est intéressant chez Dan Béjart, c'est qu'il l'a fait tout en mêlant avec, on pourrait dire sur Caput, c'était un mélange quasiment de Steely Dan, c'est-à-dire une musique extrêmement sophistiquée, mais très perverse dans son contenu. Et on va dire New Order, qui avait probablement affiné au mieux une sorte de musique extrêmement intimiste, mais avec des sons électroniques, électro, il y a New Order et on va dire les Pet Shop Boys qui ont réussi ça, quoi, avoir une musique réellement authentique, humaine, et pourtant qui était totalement dans cette vague des années 80. Et Dan Béjart, en glissant simplement son curseur, en repartant un peu des expérimentations un peu presque néo-psychées et tout, en faisant ça, a trouvé sa voix, c'est-à-dire qu'il l'a plu, il a toujours ses maniérismes, mais il y a quelque chose d'assez envoûtant, et je trouve qu'il a fait deux albums depuis, un qui partait dans tous les sens, puis un autre dont on a parlé ici, et là je trouve qu'avec ce Have We Met, il renoue, c'est comme la continuité de Caput, mais il va encore plus loin, c'est un disque en plus, je sais qu'il y a déjà eu des histoires comme ça, enregistrées, on peut se demander pourquoi il susurre comme ça, et pourtant on a rarement entendu quelqu'un susurrer, mais de façon aussi présente, parce qu'en fait il a enregistré dans sa cuisine pour pas réveiller sa femme et ses enfants, donc c'est un disque qui a été totalement...
Et vous le croyez ça, Hugo Cassavetti?
Oui, je le crois, parce que je pense qu'il est... Alors c'est curieux, parce que Destroyer est un groupe que j'aime beaucoup, par contre sur scène, ça m'a toujours déçu, parce que c'est pas un mec très aimable, assez spécialiste, indifférent à ce qui se passe, et c'est il y a aucune chaleur quand il se produit sur scène. Et pourtant sur disque, on a l'impression d'être avec lui. Pourtant, c'est dur de comprendre ce qu'il raconte. Et pourtant, tout au long, parce que c'est dur de prendre un morceau, parce que c'est un disque sur la longueur. C'est quelqu'un qui c'est un espèce de défilé de pensée comme ça, presque de tu vois ce qu'on pourrait dire de l'écriture automatique, mais là c'est de la pensée automatique où il déverse toutes ses angoisses, ses inquiétudes, ses interrogations, que ce soit sur le monde de la musique, le monde dans lequel il vit, tout en disant quand même, il faut continuer, et il y a peut-être un lien avec les autres artistes dont je vais partir ce soir. Comment je peux créer là-dedans alors que je me sens de plus en plus déphasé par rapport au monde dans lequel je suis, quoi. Ce qui explique peut-être son attitude sur scène, il est là.
Chercher la fin de la phrase d'Hugo Cassavetti.
Oui, il n'y en a pas. C'est un peu comme du voilà.
Donc je l'interromps.
Mais en fait, ça ressemble à du Destroyer un peu, quoi.
Si vous avez vraiment marqué ce disque-là. Je remettrai une deuxième plage d'Hugo Cassavetti dans un instant, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez dit, Hugo, sur lesquels vos camarades de jeu ont sans doute envie de réagir. Pascaline Potvin.
Non, moi je suis totalement d'accord avec Hugo, mais pour revenir effectivement à ce registre soft rock, vous m'avez vu sauter de joie dans le studio.
Une sorte de nostalgie quand même aussi déjà.
Midlake a sorti un album, alors j'ai une terrible mémoire des chiffres et des dates, mais un album qui s'appelle The Trials of an Occupanter, qui était 2005,
2006,
2004, Voilà, qui est juste un chef-d'œuvre. C'est du soft rock, mais effectivement, on n'est pas dans un registre synthétique comme le disque de Destroyer. On est plutôt dans un registre pop, soft rock, plutôt folk. Que je rapprocherais à la limite plutôt de Fleetwood Mac sur certains.
Mais là, pour Destroyer, voilà.
Mais là,
aujourd'hui.
Voilà, c'était la parenthèse soft rock. Mais moi, c'est un registre que j'aime beaucoup, donc je suis très heureuse de le retrouver avec ce disque. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo. C'est un disque dans lequel on se perd, mais du coup, comme il offre très peu de repères, il faut se laisser prendre par l'émotion. Par la sensualité de ce disque, en fait. Moi, pour moi, ce disque, il est vraiment perdu entre deux extrémités. Il y a un côté très Enfin, j'ai l'impression d'être sur un yacht en Floride. C'est un disque qui a des couleurs flash.
Il vous arrive souvent.
Ce qui m'arrive.
Il faut le préciser pour les éditeurs et les auditrices.
Voilà.
Ils ne savent pas votre vie.
Voilà, je suis habituée, moi, des mers chaudes, bien sûr, des yachts et des mers chaudes. Non, mais un disque avec des couleurs clinquantes, mais des couleurs floues comme ça, comme les couleurs d'un cocktail, genre Tequila Sunrise ou d'un espèce de crépuscule comme ça, équatorial. On est sur un yacht. Il y a ce côté très crooner, comme on le voit sur sa pochette, où il est presque sexy avec chemise ouverte, costume blanc et tout. Mais au fond du yacht, en fait, ce qu'il y a sous le yacht, on a une eau très noire avec des choses dessous qui se trament. C'est un disque très, très sombre. Il y a ce côté comme ça, musicalement, soft rock. Voilà, moi, c'est, effectivement, on pense à Bowie, encore une fois, de par la voix aussi, à Roxy Music, mais avec beaucoup, un peu d'huile de foie de morue dans la voix. Et parfois Robert Palmer aussi, j'ai pensé à ça. Donc, quelque chose comme ça de très confortable.
Très élégant.
Et très élégant, mais contrebalancé par cette noirceur et cette stream of consciousness hyper dark, kind of dark.
De conscience, je traduis
voilà, de conscience, pardon, comme on a écouté. Et qui se résout parfois par des plages ambiantes magnifiques. Donc il y a ce de Television Music Supervisor qui est très bowiesque aussi, qui apporte comme ça une espèce de respiration dans le disque. Have We Met qui est un instrumental indien mystique. Et la fin du disque, il y a une chanson très douce, très sensuelle et qui se termine comme ça sur une plage bruitiste. On ne sait pas trop si c'est comme des insectes, des phalènes qui tournent autour d'un phare ou bien ces espèces de voix de noyés qui seraient du coup sous le yacht. Entre ces deux extrémités, ce côté très confortable et très énigmatique et très noir, c'est à nous de nous faire une idée du disque. Elle passe par la sensualité. Et en ça, je trouve que c'est un disque très, très beau et très réussi.
Quelle idée du disque pour Sophie Rosemont qui fait des mines un peu contrariées, pas sûres.
J'approuve, je sais pas. Moi, j'aurais parlé de Lutin concernant sa dernière piste, Full Song, cette petite voix de Lutin diabolique et synthétique, parce que le synthétique est très présent ici. C'est un album qui a été majoritairement composé sur ordinateur et qui en reste néanmoins viscéral. C'est-à-dire que Dan Béjar a réussi à décider s'il habite ou déshabiller ces arrangements faits maison. Et c'est un disque qui est à la fois déshumanisé et très personnel, où il s'agit des questionnements d'un homme de bientôt 50 ans sur lui-même, mais aussi sur cette société qui subit tellement de bouleversements qu'elle en devient mutante. C'est là où on rentre dans la dimension un peu futuriste aussi de cet album. Lui parle de dystopie, moi j'irai pas jusque-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de trop justement cuisine avec la femme et les enfants qui dorment, comme disait Hugo. Mais là où je rejoins mes camarades, c'est la voix qui est extrêmement importante. C'est le point d'ancrage, très clairement, de cet album. C'est-à-dire qu'on peut parler de la multiplicité des influences, post-punk, new wave, électronica, ambiante, indus, trip-hop, tout. Mais le propos ici, c'est pas seulement la politique qui est en filigrane, finalement, de tout ce disque, mais la voix et la pochette dont parlait Pascaline m'a interpellée également. C'est-à-dire, hormis cette élégance, il y a aussi cette prise en main du micro que seul Rolio Iglesias jusqu'ici pouvait le faire.
Non, mais où Brian Ferry quand même, c'est aussi à qui,
aussi Brian
à qui j'ai pensé.
Mais là, c'était la petite blagounette, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Il faut en faire quand on écoute des albums comme Have We Met. En revanche, c'est vrai qu'un morceau comme The Television Music Supervisor, très ambiante, contemplatif, réflexif à la fois, parfois peut me conduire vers l'ennui, mais voilà, It Just Doesn't Happen, University Hill, cette balade pop trafiquée, l'instrumental gourou indien de Have We Met, oui, vraiment, il y a un sens, en tout cas, des mélodies qu'il n'y avait pas sur Ken, qui était l'album précédent, là où il avait commencé un peu ce travail, qui est un album que je trouvais intéressant, mais moins accrocheur, parce que là, quand même, la plupart des titres sont très accrocheurs. Mm. Et c'est ce en quoi, malgré, on va dire, le clair-obscur des textes et cette espèce de posture où on ne sait pas justement sur quel pied danser, et je rejoins Hugo là-dessus, en live, c'est pas quelqu'un de très généreux et d'assez froid. Cette froideur, à la fois on la retrouve et à la fois il y a la chaleur des mélodies, d'où le côté à la fois froid et chaud.
Oui, mais alors c'est vrai que la question des textes est importante, parce que pour celles et ceux qui ne sont pas anglophones ou qui ne font pas appel à des outils de traduction de paroles, se disent qu'il pourrait sembler rester sur le pont du yacht, pour continuer la métaphore de Pascaline Potvin tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose que moi je trouve parfois même d'un peu vulgaire dans certains morceaux, comme le solo de guitare qu'on a entendu à la fin de Kind of Dark. Il y a des accents de... Vous avez cité beaucoup d'influences ou de styles musicaux. Il y a du rock FM quand même aussi par moment. Une sorte de...
Coq Robin.
Sur
la troisième wow.
Coq Robin.
C'est fort.
Quand même. C'est compliqué. Oui, mais il les fait bien, moi, je trouve.
Alors, il les fait bien si effectivement on rentre dans les paroles, on rentre dans ce... dans cette sorte de voyage qu'il nous propose, qui est effectivement assez malaisant. Mais si on a une écoute vraiment sans la compréhension des paroles, ce disque, en fait, ne ressemble pas à ce qu'il est, ce qui est un peu paradoxal et peut-être peut gêner son approche. Moi, je ne suis pas musicalement toujours très fan, y compris cette longue plage instrumentale que beaucoup d'autres font beaucoup mieux. Là, je trouve ça un peu presque prétentieux. Et là, il n'y a plus les paroles, donc c'est encore plus gênant. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer maladroitement, Hugo Cassavetti ?
Alors, oui, sauf que dans ce genre de musique, la prétention n'a jamais été paradoxalement un défaut.
Non, mais c'est vrai. Il faut être prétentieux, mais à la hauteur.
Et là, en plus, pour revenir à l'histoire des paroles, ce que j'aime bien, et c'est souvent des paroliers que j'aime bien, c'est que justement, on ne comprend pas. C'est des bribes, c'est des choses. C'est pas du tout linéaire et un récit, contrairement à quelqu'un dont on va parler après, Andy Schauf. C'est, voilà, c'est ce qu'on dit, ça part comme ça. C'est des images, c'est des idées, des choses qui s'entrechoquent. Mais tout ça, débité sur ce ton très doux. Et moi, je trouve qu'il y a une continuité, quand je dis par rapport à Caput, je pense que Caput est un disque qui démarrait. Très très bien, et peut-être aller pas jusqu'au bout, ça se finit par un morceau trop long et tout. Là, je trouve que même avec l'instrumental, quand je le mets, je suis étonnamment emporté, comme si c'était tout le temps le même morceau, sans pourtant que ça le soit. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... et toutes ces références, juste voilà, ça que je voulais dire, voilà, il y avait déjà ça sur Caput, tout à coup des solos de saxo à l'ancienne, et justement je trouve que c'est ce qui est très fort, il fait passer des choses qu'en temps normal on n'aimerait pas, et c'est pour ça que je donnais l'exemple, on pourrait toujours donner l'éternelle référence à un groupe comme Steely Dan qui fait passer des choses qui feraient frémir n'importe qui, et pourtant le propos tordu, malsain de Fagen faisait tout passer, parce que tout, on ne sait jamais si c'est au premier ou au second degré, voilà.
Parce qu'il y a une peau de vin.
Non, moi aussi je trouve, enfin moi je dirais que si on ne comprend pas les paroles, si on ne comprend pas la portée sombre de ces textes qui sont, moi je dirais, impressionnistes, parce qu'on a comme ça, effectivement, comme le dit Hugo, des petites bribes de choses, moi je trouve qu'elle passe quand même par sa voix. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que ce soit une voix douce. Il y a vraiment un truc de crooner
un peu
aigre,
inquiétant quand même.
Aigre, pas aigri, mais aigre.
Non,
un truc vindicatif.
Donc ça pourrait mal se passer quand même.
Exactement, ça pourrait mal se passer sur le yacht, et on le sent, et moi c'est ça que je trouve vraiment... ce contraste entre cette musique très confortable, limite kitsch, et cette vindicte, ce côté très amer dans les paroles, moi je trouve ce contraste déstabilisant et très troublant, agréablement troublant.
C'est du louride kitsch en fait.
En exagérant.
Du louride kitsch.
Robert Palmer.
Mais à la guitare, je tiens à préciser que c'est Nicolas Braque
pour terminer.
Qui joue de la guitare et qui a parfois effectivement tendance à s'enflammer. mais il est vrai que concernant certains... Je trouve que quand même le premier morceau, Crimson Tide, est vraiment un manifeste existentiel et c'est peut-être le plus audible et lisible de l'album. Et après, il y a ce côté sinueux et là-dessus, je crois qu'Arnaud et moi, on est d'accord sur ce titre. Hein. C'était Olivier Julien, la musique superviseur, qui est censé être le point d'orgue et moi qui mérite. Mais vraiment, comparé au disque précédent, il y a quand même quelque chose d'accompli. Dans cet album, vraiment.
L'album, c'est Have We Met, The Destroyer, chez Dead Ocean, et donc on ne vous verra pas le 4 mai au Café de la Danse à Paris, où lui, par contre, sera en concert, puisque non, mais vous y serez peut-être quand même.
On va le tenter. Moi, je ne l'ai jamais vu, ça me rend très curieux.
Allez, on va le mettre au défi de sourire ce soir-là, le 4 mai. On va parler dans cette émission dans les chauves de Julien Gasque de Modern Music.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute musique avec un autre Canadien, nous avons fait coup double ce soir, celui s'appelle Andy Schauf, le nouvel album de Neon Skyline chez Anti. On avait là aussi parlé de son précédent album qui s'appelait The Party, c'était en 2016. 4 ans plus tard, voici donc le 6e album d'Andy Schauf. The Party, c'était comme un recueil de nouvelles, c'était des petits récits qui formaient un grand tout. Cette fois, ce serait davantage pour le coup un flux de pensée de cet homme qui serait dans un bar à Toronto et qui penserait peut-être à sa vie, ferait une sorte de point sur son existence. Le tout enregistré sur un 8 pistes, on en reparlera pour, selon Andy Schoeffer, rester sur l'essentiel. Là encore, on va faire un premier tour de table avant d'écouter un morceau. Pascaline Potvin.
De la dentelle, mais un peu toujours le même motif.
Ah, Sophie Rosemont.
Vous reprendrez bien une petite tournée de pop folk.
Et Hugo Cassavetti.
On va être passionnément soporifique.
Bon, d'accord. Bon, alors restez avec nous. Allez vous faire un café. On écoute Things I Do.
Calm down, you were so embarrassed. Seems like I should have known better than to turn my head like it didn't matter. Why do I do the things I do?
Vous ne réveillez pas Hugo Cassavetti, ça va? Non, vous n'êtes pas endormi, en 2 minutes 20.
Non, parce que j'attends le suivant pour m'endormir.
Oh, il est vraiment terrible aujourd'hui. J'aurais dû mettre votre camarade destroyer à la fin pour vous attendiez fébrilement et soyez gentil avec vos camarades. Pascaline Potvin, Andy Schoeffer et ce nouvel album de Neon Skyline.
Alors, de Neon Skyline, je pense qu'il faut expliquer un petit peu parce que c'est un album concept. Donc, comme vous l'avez dit.
Là, ça a déjà envie de s'endormir quand même. Quand on commence avec cette phrase.
Moi, j'ai rien
les albums concept.
Moi, j'aime les albums concept.
Bah, il faut qu'ils tiennent la route.
Oui, et là, en l'occurrence, en tout cas, le propos est clair. Effectivement, c'est un narrateur, Andy Schoeffer, on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas, qui se balade de bar en bar en ville, dans Toronto. Apparemment, il l'a écrit alors qu'il venait de déménager là-bas. Il avait du mal à se faire des amis, donc il sortait dans les bars. Et les anecdotes,
sont bonnes.
Évidemment, les anecdotes qu'il entendait dans les bars, les scénettes auxquelles il assistait, lui ont donné, comme ça, lui ont donné l'inspiration pour écrire ses chansons. Donc, c'est un narrateur qui se balade de bar en bar et qui se rappelle son histoire avec son ex et qui, à la fin du disque, va retomber sur cet ex parce qu'il apprend au début qu'elle est à nouveau en ville. Bref. Donc, c'est typiquement un disque sur lequel on peut se faire des images. C'est un disque de folk. Moi, c'est un petit peu ça qui me gêne, c'est que j'avais beaucoup aimé le précédent disque d'Andy Schoeffer, The Party, qui était un disque de folk très ouvragé, un peu plus étoffé, avec des arrangements plus déployés, plus de cordes notamment, des choses qui avait un peu plus de poids. Là, on est quand même dans un truc un peu volatile. Voilà,
on
c'est principalement de la
guitare
acoustique.
Volatile.
Non, mais c'est un peu insaisissable.
Je soumettrai aux autres.
Comme ça, et c'est un petit peu linéaire.
Enfin, insaisissable.
Non, mais moi, je trouve que c'est linéaire, en fait. C'est, j'ai l'impression d'avoir un truc qui murmure comme ça, qui est très joli, mais qui m'accroche pas souvent. Alors, heureusement, quand Andy Schoeffer est un mélodiste hyper doué et qu'il a quand même le talent des arrangements. Au fil de cette linéarité comme ça, il y a des choses qui nous accrochent. Il y a un refrain qui marche très très bien à un moment. Il y a du groove dans ce qu'on vient écouter, Things I Do. Des ponctuations de vent qui sont magnifiques. Des clarinettes comme ça, comme des petites virgules très très gracieuses sur Changer. Des fredonnements qu'on a envie de reprendre en chœur. Donc parfois comme ça, ça m'accroche. Mais le reste du temps... En plus, comme j'ai ces images en tête, j'ai l'impression de, voilà, de voir un groupe de potes pas désagréables, hein, mais tous en chemise de bûcheron, les genoux en dedans, un peu
moins rigolo. Salut nos amis canadiens. Hein.
Mais que j'aime beaucoup. En plus, moi, la scène de Toronto, je l'adore. Donc, mais là, c'est quand même quelque chose de très différent. C'est très joli, mais au bout d'un moment, c'est un peu de la bière allégée. Enfin, Andy Schoff est un très grand fan d'Eliot Smith, notamment. Eliot Smith qui avait fait une chanson magnifique, Between the Bars, sur son album Either Or en 97. Là, on est Between the Bars, mais avec Eliot Smith, c'était de l'alcool fort. Ça nous prenait aux tripes. Là, voilà, c'est très joli. Vraiment, je dis pas le contraire, c'est pas un mauvais disque.
Bah, c'est plutôt Paul, mais une bière sans alcool.
Voilà.
De Sophie Rosemont.
Concernant Eliot Smith, c'est vrai que justement, j'allais parler de cette comparaison, car on parle souvent d'Eliot Smith quand on évoque Andy Schoff, sauf que Between the Bars, c'était non seulement de l'alcool fort, mais c'était surtout, ça parlait de l'alcoolisme. Eliot Smith, c'était quelqu'un à vif, de profondément triste, malheureux, qui nous écharpait les tripes. En revanche, ils ont quelqu'un en commun, qui est Rob Schnapf, qui a mixé plusieurs enregistrements d'Eliot Smith et qui a mixé cet album d'Andy Schoff. Là, on pense plutôt à Harry Nilsson, à Paul Simon, à Randy Newman, bien entendu, avant toute chose, comme d'habitude. Mais quant à cette question de la nouvelle déclinaison d'une jolie formule, je crois qu'il y a quand même une différence qui a peut-être dérangé Pascaline, c'est que là, il n'est pas parti du piano, comme il avait fait pour The Party, il est parti de la guitare. C'est vrai, ça a été vraiment son outil de travail.
Il n'a pas multiplié les pistes et les enregistrements, il a voulu, je l'ai dit au départ, c'est sur un 8 pistes, quand les 8 pistes sont pleines, on arrête, le morceau est fait.
Voilà, et il a voulu... Je cite, comme il a pu me le dire, « revenir à l'essence pure de la chanson pour transporter la chanson sans la transformer et privilégier la simplicité ». Effectivement, Arnaud. Après, moi, je suis quand même plus enthousiaste que Pascaline et sans doute beaucoup plus qu'Hugo Cassavetti quand je vois son petit œil malicieux s'éveiller à l'idée des choses cruelles qu'il va prononcer dans quelques minutes. Mais... Là, c'est pas vraiment, quand on y pense, un album concept. C'est vrai que c'est l'album concept dans le sens de la narration chronologique, et ça, c'est évident. Mais contrairement à The Party, où il y avait le narrateur est arrivé à une soirée, raconte un peu l'arrivée, le départ, etc. Là, le bar, The Neon Skyline, où il s'est réfugié en arrivant à Toronto, cette installation à Toronto est importante parce qu'au lieu d'enregistrer dans sa chambre et donc de faire The Party, il a enregistré dans un garage où il a fait The Neon Skyline. C'est un prétexte pour parler de la manière dont il a foiré cette histoire d'amour avec cette Judy, donc un des personnages qui débarque assez vite et sur laquelle il tombe alors qu'il ne pensait pas tomber sur elle, etc. Donc là, on n'est pas loin, on est entre Melrose Place et Heart Like a Vif, version 25 ans, ça je l'accorde, mais il y a quelque chose d'assez émouvant que j'aime ici, et surtout de l'humour, parce que voilà, c'est ça aussi qui le démarque beaucoup d'Eliot Smith, c'est que tout ceci, c'est avec quand même de l'autodérision. Il sait que finalement il fait partie de ces jeunes mecs un peu branchés qui font de la guitare, qui se retrouvent tous, cette espèce de caricature évoquée par Pascaline plus tôt. Mais ça, il en a conscience. Et tout ça
le rachète un peu quand même.
Ça le rachète, pour et vous, quand même, il y a une cas. Mélodie. Et les trois derniers titres de l'album, Try Again, Fire Truck et Changer, sont vraiment énergisants. Et il y a de la lumière à la fin de ce fil conducteur chronologique qui est ponctué de flashbacks. Il y a une lumière.
Et là, il y a un point chez Sophie Rosemont. Hugo Cassavetti sur Andy Schoff.
Parce qu'on a l'impression qu'on n'aime pas ce disque. Moi, je suis totalement d'accord avec Pascaline. Le problème, c'est que c'est un disque. Alors, ça peut être des compliments, qui est agréable, qui est plaisant, qui est joli. Mais le problème, c'est que ce n'est que ça. Et c'est quand on parlait du soft rock tout à l'heure, je trouve qu'il retrouve tous les mauvais tics du soft rock des années 70, de tous ces groupes qui allaient, que j'aime parfois.
Qui font des jolies petites chansons.
Comme ça, mais qui n'avaient pas de signification. Et c'est quand même drôle. On a parlé de Destroyer, où dans le fond, on ne sait pas ce qu'il raconte. Et pourtant, on est 100 fois plus captivé par ce qu'il dit que ce truc-là qui a un récit. Effectivement, si vraiment on s'intéresse au récit, c'est pas inintéressant. On dit qu'il écrit bien. Sauf que quand on l'écoute, ça glisse comme ça. Et que quand les deux références, on a cité les deux références qu'on cite toujours, c'est Paul Simon, alors peut-être que je vénère, et Randy Newman. Il n'y a absolument pas justement ce côté grinçant et caustique de Randy Newman qui fait qu'on entend tout. Et
Paul Simon, on pourrait trouver ce côté extrêmement doux, policé, sauf que Paul Simon, à l'art, il n'y a pas une phrase de Paul Simon qu'on retient pas. Il y a toujours un moment où il va accentuer quelque chose. Il y a des fulgurances toutes les deux phrases. Et tout ça, c'est pour moi la force de Paul Simon et que je ne retrouve pas chez lui. Là, ça glisse, ça coule, je suis d'accord. Donc, c'est pas désagréable. Je le mets, sauf que chaque fois, à aucun moment, je me dis, ah, il m'emmène dans une histoire. Je le sais parce que j'ai lu la bio, on me dit que s'il raconte, mais j'entends une agréable musique de fond, pas désagréable, je trouve que les mélodies, je les trouve pas, elles sont plaisantes, mais je les trouve pas extraordinaires. Et la seule qu'on retient, je la trouve un peu plate, genre what do I do and I do, je sais pas quoi, je trouve que ça fait un peu, voilà, vieux tube, un peu easy listening des années 70. C'est pas désagréable, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé The Party, je sais que c'est le sixième album, mais c'est celui avec lequel on l'a découvert, qu'il avait enregistré tout seul et qui, paradoxalement, était beaucoup plus fragile et recherché. Mais il faut juste dire qu'entre-temps, il a fait un album qui s'appelait Fox Warren, qui est avec son premier groupe, avec qui il n'avait jamais enregistré, qui fait un peu comme quand Tom Petty avait fait avec son Matt Crutch, tout à coup, au bout de 30 ans, a enregistré le premier album avec son groupe d'enfance. Donc, du coup, Fox Warren était un truc beaucoup plus énergique et direct et pop. Et là, on a l'impression qu'il est entre les deux. Il a voulu faire du Fox Warren, mais tout seul, avec juste des musiciens de studio. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de relief et d'énergie, quoi. Tout ça est... Et voilà.
Il n'est pas avec des agréable et plaisant. Tout seul sur l'album, il a tout joué tout seul.
Sophie
encore. Il a tout joué tout seul. Il a tout joué tout seul. Non. Il m'a dit,
Sophie Rosemont.
Il a tout joué seul.
Et vous l'avez cru.
En partant du principe que pourquoi demander à des gens de refaire éternellement des choses.
Là, il a essayé de faire un groupe tout seul et c'est le problème.
Ah, mais il a essayé de faire un groupe tout seul comme sur The Party.
Plein de gens avant lui.
Sauf que après, est-ce que lui ne ferait pas mieux de travailler uniquement à partir de la base des claviers? Est-ce que ça lui va pas mieux? Parce que la clarinette, quand elle est là, c'est très joli. Est-ce que partir de la guitare est une bonne idée? C'est à se poser. Après, évidemment qu'aucune mélodie est extraordinaire, évidemment qu'il n'arrive pas au quart de l'orteil de notre cher Paul Simon, mais c'est des influences qui sont quand même, c'est pas honteux de les citer, et les mélodies sont assez jolies pour être soulignées, et je pense pas que ça soit si vaporeux et oubliable que cela.
Allez, mot de la fin pour Pascaline Baudvin, on échauffe.
Je reviens juste, il y a une chose que j'ai découvert chez lui, enfin que j'ai aimé dans le disque, et c'est quand même les textes sont chouettes. Alors là aussi, il faut un peu se plonger dedans. Il faut les lire, parce que c'est vrai qu'on les... Non, quand on les écoute comme ça, surtout si on n'est pas forcément bilingue, on ne capte pas. Mais moi, je sais qu'à la première écoute, il y avait une chanson qui m'avait interpellée dans les textes. C'est celle qui s'appelle Dust Kids. C'est vraiment typiquement deux garçons genoux en dedans, donc qui se racontent une anecdote qu'ils ont lue. Il y en a un qui dit, j'ai lu un article sur la réincarnation, des enfants de 2 ans qui se rappellent leur vie passée. Et qu'est-ce qu'il y avait entre leur naissance et leur vie passée? Il y avait peut-être le paradis. J'ai trouvé ça hyper beau, hyper poétique. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a ça. Alors peut-être que la musique m'ennuie un peu, mais cette image, je l'ai trouvée très belle. Et du coup, ensuite, j'ai lu d'autres textes de Neon Skyline. Et on tombe sur Living Room, où pareil, c'est les garçons, une fille qui arrive dans le bar, qui leur raconte une anecdote, qui dit « Mon fils a passé la journée à faire un dessin pour moi, je l'ai mis sur le frigo, j'ai même pas regardé le dessin, c'est triste. » C'est une petite anecdote, un truc du quotidien, mais il a les mots pour le dire, quelque chose de très juste, à la fois très poétique, très simple et très juste. Et c'est quand même, voilà, une des choses que je rajouterais au crédit de ce disque, c'est que c'est aussi un bon auteur, et on a envie de redécouvrir ça peut-être dans un futur
qui l'incarne mieux.
Voilà,
The Neon Skyline, Denis Chauve-Chianti. Il y a des concerts à venir en France, le 13 mars à Fézin, le 14 mars à Mérignac, petit saut côté belge, le 25 mars à Bruxelles, 6 avril à Rouen et 7 avril au Trianon à Paris. C'est l'heure du coup de cœur ce soir, celui d'Hugo Cassavetti pour la réédition d'un album de 1976, Bebop Deluxe de Modern Music.
Non, c'est Bebop Deluxe, le nom du groupe.
Ah, c'est l'inverse?
Oui.
Ah oui, bah c'est alors, Bebop Deluxe, le groupe, Modern Music, l'album. Je l'ai écouté, mais vous voyez, ça m'a pas frappé. 76, j'étais un peu petit, mais vous aussi, pour écouter ça. Vous l'écoutez maintenant chez Cherry Red Records. On va écouter un extrait que vous avez choisi, Kiss of Light. L'album, c'est Modern Music. Le groupe, c'est Bebop Deluxe. Vous m'avez complètement échappé. Je veux dire que vous avez, me semble-t-il, bien choisi ce morceau. J'ai écouté un peu, mais il y a 5 CD. Hein. J'ai trouvé ça horrible, mais ça me plaît davantage. Mais on parlait d'influence tout à l'heure. On en entend beaucoup, là, Gokha Savetri.
Oui, alors il faut savoir. Alors, Bebop Deluxe, c'est le groupe de quelqu'un qui est injustement méconnu. Alors, pour moi, c'est une madeleine, mais je pense que c'est une madeleine qui vaut bien mieux que juste une madeleine pour moi. C'est alors Bebop Deluxe, c'est avant tout un type qui s'appelle Bill Nelson. Ça, c'est peut-être un nom que vous connaissez. Oui. Qui était quand même un guitariste du Nord d'Angleterre qui avait démarré en 70, il avait juste sorti un disque autoproduit qui a été découvert par John Peel. Et 3-4 ans plus tard, il a fondé Bebop Deluxe, donc 74, un premier album, Axe Victim, qui est, alors voilà, en l'écoutant, on me dit, tiens, un peu de Bowie, oui, un peu de T-Rex, un peu de truc. Mais justement, il fait partie de ce que, on a toujours dit qu'il y avait le baglam, c'était, on va dire, Slade et tout ça, que j'adore, mais qui était vraiment populaire des tubes. Et puis ce qu'on appelle le glam, alors il y avait Bowie et les Roxy. Et les gens, alors moi, mon autre, que j'adore, c'est Cockney Rebel, Steve Harley et Bebop Deluxe, c'est-à-dire des gens qui mélangeaient, mais de façon justement jamais au dépens de la chanson, tout ce que le progressif anglais avait de plus noble, avec toutes ces références mélodiques du glam, en cherchant, en modifiant chaque fois, et c'est le cas. Et Bill Nelson, au début, était avant tout un espèce de guitariste virtuose qui a fait un premier album très glam. Ensuite, il y en a eu un. Ça, c'est le quatrième même, et qui a un concept album, mais déjà ils ont déjà évolué. Il y a eu 5 albums de Bebop Deluxe, et celui-là, je trouve, après il faut rentrer dedans, c'est un récit, je trouve qu'il y a une écriture incroyable, et Bill Nelson n'a jamais stagné. Alors on dit qu'il y a des gens qui ont imité Bowie et tout ça, je trouve que c'était totalement en parallèle, c'est pas du tout vrai. Après ça, il a perçu exactement comme Bowie, ils étaient sur la même onde que la guitare, il a un peu laissé tomber, en tout cas il continue des fois pour s'intéresser au clavier. Il a fait ce groupe qui s'appelait Red Noise, où on est plus proche que du Wire des 77. Après, il a produit des groupes comme les Skids. Et depuis, après, tout seul, ça fait maintenant 30 ans, qu'il sort quasiment 4 ou 5 disques par an de ses disques. Sur Cocteau son Records, son label, parce que voilà, ses premiers albums, c'est des citations de Jean Cocteau. C'est très maniéré, précieux, mais assez virtuose et jamais indigent. Et je pense que c'est à découvrir. Moi, ça fait partie de mes marottes, Bebop Deluxe. Et voilà, alors, ça n'a pas convaincu Arnaud.
Non, mais ça commence là.
Mais là, c'est l'édition de luxe pour les maniaques.
Mal tombé peut-être dans mon
album, les éditions de luxe, on a 50 000 lives et tout.
Ouais, peut-être que je suis mal tombé.
Les lives, voilà, il y a quand même beaucoup de solos et de choses comme ça.
Oui, qui ne sont pas de ce que je préfère le plus, vous l'avez compris. Mais bah voilà,
j'ai découvert grâce à vous. Il y a un chant, il y a une écriture, il y a une voix et des mélodies originales.
Bon, c'est une occasion de parler plus du groupe que de cette sortie, même cette sortie.
Oui, parce que si je prends celui-là, ce qui vient de sortir, et que c'est un disque, je pense qu'il est assez parfait, quoi.
Bon, Bebop Deluxe, Modern Music, Cherry Red Records.
France Culture, La Dispute.
Le dernier disque à notre sommaire, L'Appel de la Forêt, de Julien Gasque chez Born Bad. Droit de suite encore, puisqu'on avait là aussi parlé du précédent album de Julien Gasque, c'était en 2016, Kiss Me, You Fool. Et c'est un membre du groupe Aquaserge, Julien Gasque, qui était longtemps une sorte d'éminence grise de la nouvelle scène française. Cette fois-ci, on va d'abord écouter une chanson, tiens, celle qui donne son titre à l'album, L'Appel de la Forêt.
Le point commun qui nous unit, c'est que nous avons plusieurs visages, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. Ne sacrifions plus nos pensées à quelconque tyrannie. Il n'y a plus de règles. Nous inventons de nouvelles formules. Nous marchons contre le vent. Nous marchons sur la montagne. Nous remontons sur la scène de notre propre vie. Je sais qu'avec toi, je peux tout dire. Je peux enfin me confier dans le calme. Toi et moi, une autre idée du végétal. Nous vibrons ensemble. Nous mourrons et nous nous reformons à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Nous savions ce que nous voulions devenir depuis l'enfance. Ton intelligence te laissait entrevoir qui tu allais être. Ton intelligence te laisse voir que je t'aime. Notre époque voit enfin la rupture. Nous sommes sur les ruines de la folie. La folie. A repoussé, la nature a repris le dessus. Elle est libre et sauvage. Ici, plus d'activité humaine. Nous sommes ce qui se produit. Nous sommes présents. Nous ouvrons les yeux. Des choses apparaissent pour nous à chaque instant. Nous nous complétons. Nous nous ressemblons. Nous comprenons qui est l'autre. Nous sommes une multitude d'autres. Ici, chaque élément nous révèle. Forêt, tu m'appelles depuis 55 000 ans. Tu m'appelles à chaque instant. Tu fais battre mon cœur avec de nouveaux rythmes. J'ai parcouru le monde à ta recherche. J'ai longtemps marché sans autre but que celui d'être dans tes longues branches. Quand je rentre épuisé à la nouvelle lune avec un seul fil pour me guider, tu me dis:
tu es ici chez toi, enfant des bois. Tu n'as rien à craindre, apaise-toi. Ici tout se sait, ici tout change à chaque minute.
Et voilà, je leur dis que les micros vont s'ouvrir, ça les empêche pas quand même de faire du bruit. Vous êtes très indisciplinés. Vous aurez chacun un blâme, sauf Sophie Rosemont qu'on n'a pas entendu. Hugo Cassavetti ne sera pas le premier à s'exprimer sur cet album de Julien Gasse. Mmh. Il pleure. C'est donc la bonne élève, Sophie Rosemont, qui nous donne d'abord une première impression, juste un petit avant-goût.
La bonne élève. De l'intime au collectif.
Pour une fois qu'on vous donne un bon point, Sophie.
C'est vrai.
Bon, Hugo.
La même chose pour Andy Schauf. Je sais pas ce que j'ai dit.
Alors, passionnément, si vous écoutez en podcast et non pas en direct. Vous avez dit Hugo.
Non, mais qu'est-ce que c'est, de l'intime au collectif? Bah, du. Je sais pas, ça me.
Ah non, seulement il est mauvais élève, mais il prépare pas avant, vous voyez.
Bah, là,
bon, parce que
qu'est-ce que j'ai dû mettre?
Relever le niveau.
Non, moi, je mets une pulsion, une ode à l'amour, à la liberté.
Alors, moi, je lis les notes, hein, parce que j'ai des petits...
L'insoutenable légèreté du castré.
Le rêveur castré creuse sa veine poético-progressive.
Voilà, c'est ça que
ça, c'est du Hugo Cassavetti, ouais. Dans un mail arrivé à 9h38. J'ai une petite ligne de chaque critique. C'est pour les coulisses de la dispute. Bon, on développe. Sophie Rosemont, moi, je trouve que c'était quand même un drôle d'album. Tiens, je vais donner un peu mon avis aussi. Cet appel de la forêt de Julien Gasse que j'ai détesté jusqu'à sa moitié, qui m'a agacé au plus haut point, qui se rattrape ensuite et qui finit mal.
Ah.
Donc, j'ai trouvé extrêmement bancal.
En tout cas, pour présenter cet album, il clôt une trilogie. Après Serbiche et Fan en 2013, Kiss Me You Fool en 2016, dont on avait parlé d'ailleurs. Mm-hmm. Déjà, nous étions tous les deux sur cet album, Arnaud, et nous en avions dit du bien.
Nous n'étions pas seuls.
Nous n'étions pas seuls, il y avait aussi Olivier Lam, d'après mes souvenirs.
Il n'avait pas dû dire du bien, peut-être.
Qui avait dû trouver ça formidable. Il allait trouver ça formidable.
Ah, c'est à double tranchant. Et Olivier, si tu nous écoutes.
Donc. Pensez à toi, Olivier, gros bisous. Donc, écrit dans le Tarn, l'appel de la forêt épouse finalement la double ligne conductrice du roman éponyme de Jack London. Parce que c'est quand même un album qui s'appelle l'appel de la forêt, et jusqu'ici, personne ne parle de Jack London. C'est-à-dire que cette ligne, cette double ligne conductrice
Jack du London roman de Jack et les London, Gilets jaunes, donc.
C'était l'intime. Okay. Vous allez vous comprendre pourquoi. Okay. C'était à la fois intime et social, sociétal et social, ce roman de Jack London. Ici, le propos est clairement politique. Effectivement, un titre s'appelle Gilles and Jones, et c'est un clin d'œil évident aux Gilets jaunes. Dans Pagode, il dit la guerre civile a commencé. Dans Les Flots, il chante « Nous vivons une période qui s'assombrit ». Donc oui, il y a clairement un aspect politique. Et dans « Libertas et Firegask », il chante « D'or, c'est la jungle, nous avons oublié que nous appartenons au règne animal » qui, pour moi, fait un écho très direct à une des phrases les plus connues de « L'appel de la forêt » qui est « L'antique instinct nomade surgit, se ruant contre les chaînes de l'habitude et de son brumeux sommeil séculaire s'élève le cri de la race ».
Ça, on voit que vos études en lettres ont servi.
Donc... Je vous remercie, Arnaud Laporte. Écoutez, ça me poursuit. Et pourtant, je suis pas une grande fan de Jack London. Mais l'appel de la forêt, je l'aime bien. Ce loup, la buck. Bon, bref, passons. Et donc, il y a ce côté politique et il y a l'amour, évidemment, qui est traité de manière complètement différente. Donc, l'amour, ici, c'est une narration très directe, faussement simple, à la première personne. Mon amour, ma moitié, je t'appelle depuis longtemps. Bébé, parle-moi plus souvent. Notre amour durera toujours. Tu m'aimes et je t'aime. C'est tout pour nous, bébé. C'est assez rigolo, d'ailleurs, cet usage du mot bébé. Il y a quelques jolies formules, pump up the volume, qui me plaisent pas mal, mais la grande qualité de ce disque, c'est la simplicité du Julien Gasque à chanter des choses complexes sur des structures sonores qui ne le sont pas, qui le sont assez. Il y a quelque chose de gainsbourgien, là, on vient de l'entendre, dans le, on va dire, spoken word sentimental de l'appel de la forêt, qui est un des plus beaux titres de l'album, où il va jusqu'à crier « je t'aime ». Alors, ça peut paraître maladroit, agaçant pour certains. Moi, je trouve ça très beau, sur un fond éminent psychédélique, entre un rock très anglais, synthétique, et un rock progressif 70s. Et il y a même des échos latins, la bossa, dans... Maracabella, mais enfin, encore, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais
vous
pourquoi
avez peur que vos camarades prennent la parole?
Pas du tout.
Il reste peu de temps, hein, Sophie. Hein,
pourquoi
vous savez.
J'ai dit de l'intime au collectif? Parce que c'est un homme seul, certes, qui parle au nom de tous, au monde de ce monde, justement, de ces turbulences du monde dont parlait aussi notre ami Destroyer, mais qui est bien entouré par une chanteuse dont je veux souligner vraiment le talent, qui s'appelle Catherine Hercher, franco-américaine, de Benjamin Glibert, d'Aqua Serge, et quand même, c'est mixé par Dominique Blanc-Francard, et je laisse la parole aux autres avant de...
Vous êtes bien bonne, ma chère Sophie, heureusement. Hugo Cassavetti vous écoute avec un air circonspect.
Bah, circonspect, parce qu'on va avoir un peu on est dans la continuité d'Andy Chauve dans un autre registre, c'est que, et peut-être celui-là encore plus, aurait a priori tout pour me plaire, les références, on sait, bon que. Mais bon, j'ai déjà ce problème avec Aqua Serge, qui est un groupe qui m'intéressait beaucoup au début, et en même temps ce côté un peu les forts en thème, avec des calembours, un peu d'étudiants. Non, mais c'est un peu ça. Et. Cette musique-là que j'ai écoutée, c'est vraiment l'école de Canterbury. On sait que c'est la référence de ces gens-là. C'est Ron Appley, c'était Caravan, Soft Machine, au début des années 70, qui, moi, me renvoie, je pense, moins à Gainsbourg. Moi, je pense à certains aspects un peu progressifs de Vassilou. Ce qui est pas mal, mais... je sais pas, ces disques-là, je les écoute en plus, les disques des années 70. Et c'est un peu là où c'est le problème. C'est peut-être que j'ai pas... Pourquoi est-ce que quand quelqu'un fait des disques qui se réfèrent à tout ce qu'on aime, on aime, et d'autres, on se dit, bah, ça sert à quoi? Et c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne m'emporte pas avec
et on n'y arrive pas. Hein.
J'ai extrêmement de sympathie pour tout ce qu'il incarne,
mais
qu'il exprime, le côté gris, mais c'est vrai que je le mets, et c'est un peu comme pour Andy Chauve, je trouve que c'est des disques que j'ai rien à leur reprocher, si ce n'est qu'ils ne viennent pas me chercher du tout. Et voilà, il se trouve que, voilà, on est obligé de comparer les disques qu'on écoute, on va parler de Bebop, mais quand on a Destroyer, c'est le disque qui, il y a un moment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi, ça me parle. Et là, je me dis juste, bah, c'est bien fait, c'est bien peint, c'est agréable, c'est joli, mais
C'est pas agréable.
C'est pas agréable, oui.
Alors, c'est pas agréable, parce qu'il y a votre vin enchaîné.
Ah non, mais alors attention, moi c'est un disque que j'aime beaucoup, mais je le qualifierais pas d'agréable. Ah bon, ouais. Moi, ce disque, en fait, quand je l'ai écouté, la première chose auquel j'ai pensé, c'est un concert d'Aquaserge, auquel j'ai assisté il y a environ 3 ans, donc Aquaserge, qui est le groupe de Julien Gasque, dans un garage désaffecté au fin fond du 18e. Et ce qui m'avait frappé, c'est que chez lui, c'était au-delà de sa virtuosité, parce que c'est aussi un excellent guitariste, c'était sa vitalité. Il y avait en lui quelque chose de très dynamique, très pugnace, très offensif et presque animal. Et cette animalité, c'est celle dont il parle dans tout le disque et qu'on ressent partout. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont Sophie parlait d'un rock anglais. Effectivement, il y a beaucoup d'angles droits dans ce disque. Il y a beaucoup de lignes droites, des choses comme ça, presque graphiques, si on veut parler de graphisme quand on parle de musique. Et à l'intérieur, des courbes, des lignes sinueuses. Ça, c'est ce côté progressif, effectivement. On est entre la chanson, le rock progressif, la bossa, la soul. Il y a des syncopes, des décrochages harmoniques qui peuvent donner un frisson d'adrénaline ou carrément le mal de mer. C'est selon. C'est un disque très complexe, mais il s'autorise comme ça à beaucoup de liberté, à dire soyons libres en amour, allons vers l'autre, retrouvons ce côté animal sensuel et en politique aussi. Alors on pourrait penser que l'animal, que la politique est là justement pour dompter le côté animal, mais lui justement il est là pour dire le côté animal nous sert de nous libérer des carcans, la politique nous en donne parfois de mauvais, donc on se libère. Après je comprends ce qu'on peut trouver quand même de pas agréable, c'est quand même il y a la voix. La voix peut être extrêmement déroutante. Je suis surprise que ni l'un ni l'autre, que vous n'en ayez pas parlé.
C'est le cas de toutes les voix. On les adore, ou elles nous insupportent, ou elles nous indiffèrent.
Là, elle est quand même, il y a quand même un parti pris.
Ça vous fait quelque chose, vous ?
Ouais, ça me fait quelque chose, mais j'aime bien.
Ah oui.
Mais elle a, il y a quand même un parti pris de chanter avec une voix extrêmement blanche, comme ça, très plate.
Là, j'ai choisi un morceau parlé.
Mais même dans tout le, en plus, voilà, vous avez choisi un morceau parlé, donc on n'entend pas ce que ça donne quand Julien Gasque chante. Je pense que c'est pas un très très bon chanteur. Et du coup, il pousse peut-être la chose. On a cette voix comme ça, très très blanche. Moi, je pense que ça peut complètement dérouter. Ça peut avoir un côté complètement répulsif, comme un côté complètement fascinant. En tout cas, moi, ça me bouscule. Et c'est ça que j'aime bien avec ce disque, c'est que c'est un disque qui bouscule. C'est un disque animal qui vous met des petites claques comme ça. Et ça fait du bien. C'est très, beaucoup de vitalité, j'aime beaucoup.
Des petites claques qui font du bien. C'est le dernier mot. C'est le dernier
mot. Même pas mal.
Concernant. Même pas mal. Il fallait qu'il ait le mot de la fin. Le vilain élève, Hugo Cassavetti. L'appel de la forêt de Julien Gasque. Alexandre Fougeron qui réalise l'émission me précise que Blanc-Francard a masterisé l'album, pas mixé.
Ah, excusez-moi.
C'est une précision importante. L'appel de la forêt, arrêtez votre mauvais esprit, on vous coupe le micro. Hugo Cassavetti, c'est chez Born Bad. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et pour la première fois ce soir, c'est Lola Schedler qui va passer quelques mois avec nous à la dispute, qui va nous poser cette question après que j'ai dit que ce soir nous faisons gagner des DVD du film Viendra le feu d'Oliver Latch, un film qui est distribué par Pyramide. Mais chère Lola Schedler, quelle est donc la question ?
La question du jour, quel prix Olivier Latch a-t-il remporté au Festival de Cannes 2019 avec son film « Viendra le feu ».
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Lola Schedler. Prise de son ce soir, Ludovic Auger, réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve demain à 19h pour une dispute art plastique. Je serai avec Salibo, Nana Elpija et Florian Guettet. Nous parlerons des expositions de Christian Boltanski, de Niels Hansen Jacobsen, de Ben Russell et puis l'expo du musée Zadkine, Le rêveur de la forêt.